Aux approches de 35 ans, la grande mademoiselle s'aperçut à divers signes qu'elle n'était plus jeune. Elle connut la limite de ses forces, chose qui ne lui était jamais arrivée le 7 février 1662. Louis XIV dansait pour la première fois un grand ballet intitulé « Les Amours d'Hercule » et sa cousine de Montpensier y tenait un rôle. Elle en fut malade de fatigue. Une lassitude d'un autre genre lui venait. Elle s'ennuyait dans les fêtes. Elle avait vu tant de galas depuis qu'elle était au monde, tant de festins et de feux d'artifice, de guirlandes, de fleurs et de chars allégoriques, qu'à présent, elle en avait vite assez. Et le roi aimait justement les plaisirs copieux. Ce qu'il offrait à sa cour se prolongeait parfois des jours et des nuits de suite, sans vous laisser le temps de respirer. Et il n'était pas permis de ne pas s'amuser tout le temps. Mademoiselle n'en était plus capable. Elle commençait à avoir envie de rester au logis. Ses migraines y contribuaient, l'âge les multipliait, et toutes les femmes savent qu'il est plus agréable d'avoir la migraine sans témoin. Elle était rentrée de haute lutte dans le palais du Luxembourg et s'y était logée auprès de sa belle-mère. La vieille madame se serait bien passée d'un voisinage qui ne lui présageait rien de bon. Elle n'avait été soutenue par personne, car personne ne s'intéressait à elle. On lit dans une gazette à la main du 21 juillet 1660 « L'affaire mise en délibération à la cour, on trouva que mademoiselle avait droit de demander un des appartements libres et que madame ne pouvait pas le lui refuser. On dit même que le roi lui écrivit pour le lui faire trouver bon. » Il fallut avaler le calice et installer à sa porte cette belle fille tempétueuse avec laquelle il n'y avait pas de tranquillité possible, alors que madame aurait eu besoin d'un grand calme. Madame avait des « vapeurs », autrement dit une maladie nerveuse. Elle avait peur du bruit, peur de voir remuer ou d'être obligée de parler. Mademoiselle venait lui faire des scènes.
« Je la picotais souvent », disent ses mémoires. Il a méprisé beaucoup, en quoi j'ai eu tort, et elle me répondait toujours comme une personne qui me craignait, et avec beaucoup de soumission.
Le public se dispensait de plaindre madame, parce qu'elle ennuyait tout le monde. C'est le défaut qui se pardonne le moins. Anne d'Autriche elle-même, très bonne femme, tant qu'on ne la contrariait pas, ne pouvait souffrir son inoffensive belle-sœur. Elle disait à mademoiselle, qui n'avait pas besoin de cet encouragement,
« Sa personne, son humeur et ses manières me sont odieuses. »
Au fond, le public avait raison dans son antipathie. Madame était de ces gens qui rendent la vertu haïssable et sont par là très malfaisants. Le Luxembourg était commode et gai. Mademoiselle s'y plaisait et il lui souriait de s'arranger une grande existence de princesse riche et indépendante. On ne pouvait pas faire plus mal sa cour. Dès que Louis XIV eut pris le pouvoir, il laissa voir qu'il ne voulait plus d'autres centres mondains dans son royaume que son propre palais. Sa cousine n'en tint compte. Ce n'était point bravade. C'était impossibilité de comprendre qu'une personne de sa qualité pût être réduite au rôle de satellite. Il est certain que la nature ne l'y avait pas préparée.
« Je passerai ma vie dans la solitude »,
écrivait-elle.
« Plutôt que de contraindre mon humeur, fière en rien, y a-t-il de ma fortune, je n'ai nulle complaisance, et j'en demande beaucoup. »
Elle disait aussi
« Je ne loue pas volontiers les autres, et je me blâme rarement. »
Avec ce caractère-là, il était peut-être plus sage de ne pas aller trop souvent au Louvre. L'imprudence fut d'attirer la foule chez soi, comme au temps où Mademoiselle faisait de l'opposition dans ses Tuileries. Son salon devint le premier de Paris, le plus intéressant et le plus recherché. Paris ne pouvait plus se passer de jolies conversations depuis qu'il en avait goûté sous la direction de Madame de Rambouillet et qu'il s'était découvert le génie de cet art délicat. L'initiatrice vivait encore, mais elle était vieille, malade, et son cercle s'était dispersé il y avait longtemps. Mademoiselle de Scudéry en avait recueilli ce qu'elle avait pu, et en avait fait le fond de ces fameux samedis où l'esprit et le savoir se dépensaient sans compter. Néanmoins, ce n'était plus cela. Les samedis de Sappho ramenaient les gens de lettres à la pédanterie dont Madame de Rambouillet les avait plus ou moins débarbouillés. Ils s'y retrouvaient trop entre eux. Laissés à eux-mêmes, ils reperdraient ce qu'ils avaient pu acquérir de bonne grâce intellectuelle au frottement des habitués aristocratiques de la chambre bleue. L'esprit a ses manières, tout ainsi que le corps, et il put aussi en avoir de bonnes et de mauvaises. En 1661, la cour était encore seule à avoir les bonnes. Il n'existait pas d'autre monde où le premier venu sût parler un langage aisé et galant, assorti au feutre à plumes et aux belles révérences. C'était dans les traditions du lieu. Il manqua aux doctes amis de Mademoiselle de Scudéry de ne plus se sentir guetté par ces beaux seigneurs qui avaient le trait si prompt, la raillerie si légère et qui détestaient les cuistres. La société féminine des samedis avait aussi trop peu d'habitude avec les duchesses et les marquises pour remplacer l'hôtel de Rambouillet. Mademoiselle Roquet, qui tient une grande place dans les chroniques des samedis, était fort aimable et jouait miraculeusement du luth, mais elle appartenait à la très petite bourgeoisie. Mademoiselle Dupré, autre amie de la maison, était une fille intelligente et instruite qui avait fait une étude particulière de la philosophie. Elle citait trop souvent Descartes pour avoir l'air galant en conversation. Mademoiselle de Scudéry elle-même, qui était reçue dans la meilleure compagnie et qui avait autrefois combattu le blablouisme avec un bon sens admirable, n'avait pas pu écrire impunément 32 octavos à la file. Il lui en était resté un peu d'encre au bout des doigts. Il semblait que tous les pédants de France tinssent classe en sa maison. Les mots d'esprit y avaient leurs papiers. On en dressait des procès-verbaux. L'illustre Sappho avait bien mérité d'inspirer Molière lorsqu'il écrivit les précieuses ridicules. Monsieur Cousin a beau se refuser à le croire, je m'imagine qu'elle n'y avait pas échappé. Mademoiselle rendit aux beaux esprits le service de les remettre à l'école de la cour pour les manières et le langage. Nous sommes très renseignés grâce à une fantaisie de princesse d'où est sortie une petite littérature sur les modèles que le Luxembourg avait à leur offrir. En 1657, Mademoiselle étant à Champigny pour le procès Richelieu, la princesse de Tarente et Mademoiselle de la Trémouille lui montrèrent leurs portraits écrits par elle-même, à l'imitation de ceux que Mademoiselle de Scudéry, créatrice du genre, donnait à deviner dans ses romans à la clé.
Je n'en avais jamais vu. Je trouvais cette manière d'écrire fort galante et je fis le mien.
Après le sien, elle en fit d'autres et exigea que l'on en fît autour d'elle. Il en est résulté un répertoire unique en son genre, où de nobles personnages, des deux sexes et de tout âge, ont la bonté de ne rien nous laisser ignorer d'eux-mêmes. Pas plus l'état de leurs dents que leurs opinions sur l'amour, ni de leurs amis pour lesquels ils ne se sont pas trouvés de raison d'être plus discrets. Le recueil des portraits nous apprend comment l'aristocratie d'alors se voyait ou voulait être vue.